Chapitre 3e. Journal de Henri. 10 mai. Mareuil a été bâti par François Ier, qui l'offrit à Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois. Une avenue de platanes conduit à la cour d'honneur, gardée par deux sphinx. Le château est bâti sur le bord de la rivière et entouré de douves. C'est un grand pavillon carré, cantonné aux angles de tourelles en encorbellement reposant sur des culs-de-lampe et couronné de toits coniques. La porte, en bois sculpté et portant sur ses vantaux des armoiries peintes, est surmontée d'un balcon accosté de deux trompes en demi-lune. Le vestibule est voûté en voûtes ogivales à nervures prismatiques. La retombée des ogives s'appuie sur des chapiteaux en cul-de-lampe. Les clés de voûte, disposées en lignes brisées, offrent les armoiries de Diane de Poitiers. Un escalier à travées parallèles, réuni par des paliers à l'italienne, conduit aux étages supérieurs. La chambre de Lady Clarkson est tendue d'étoffes rouges, parsemées de salamandres avec la devise « Extingo, j'éteins ». Au fond est une grande cheminée de pierre, formée de niches séparées par des pilastres aux délicates arabesques. L'ameublement présente un mélange étrange de meubles Renaissance, de sièges modernes et de bibelots exotiques. Sur le grand lit de chêne, fermé par des pentes en tapisserie, aux tons éteints, s'étale une courtine en soie brochée du Japon, aux couleurs vives. Une Vénus en terre cuite se dresse auprès d'un portrait de Charles Quint. Une chaise longue, en soie caroubier, s'allonge contre un prie-dieu qui fut jadis celui de la reine Médicis. Tous ces accouplements étranges et ces anachronismes d'ameublement blessent la vue. Lady Clarkson aime, dit-on, les artistes, mais elle n'a pas le sentiment de l'art. La chambre que j'occupe est au fond de la galerie. Elle s'éclaire sur la rivière. Le lit à colonnes torses est garni de tapisseries de Flandre. J'éprouvais une sensation étrange, en relevant la courte pointe de satin blanc jauni, comme si j'allais retrouver le parfum des cheveux de la blonde Diane. Sur les murailles s'alignent des toiles représentant de beaux messieurs roides dans leurs fraises et la main sur la garde de l'épée. À droite et à gauche, sur des dressoirs, des plats de Palissy et une coupe d'argent de Benvenuto. J'ai trouvé là beaucoup de livres, des poésies surtout. Il y a notamment deux éditions originales de Ronsard et de Marot, merveilleusement reliées. Il y a aussi tous les petits maîtres du siècle dernier, mais je n'aime pas ce genre. 20 mai. Grâce à Monseigneur, je connais maintenant les moindres détails du château. Il reconstitue les archives du domaine et a restitué avec beaucoup de fidélité l'histoire des fastes de cette royale demeure. Parfois, en l'écoutant causer, il me semble voir le roi François Ier entouré de sa cour de favorites, de courtisans et d'artistes, les femmes aux chaperons de velours étincelant de pierreries, aux étroits corsages, aux robes traînantes, les hommes à la toque sainte d'une longue plume, au juste au corps noir à crever de couleur feu, au manteau court et à la longue dague, des pages portant des aiguères, des livriers au collier héraldique passent au second plan. Cela me rappelle le roi s'amuse, et je m'imagine que Saint-Vallier va faire son entrée pour adresser des remontrances au roi en vers alexandrin. Tous ces souvenirs évoqués par Monseigneur m'attachent à cette maison. Il me semble que je pourrais peindre un chef-d'œuvre ici. J'ai accepté de travailler à la restauration de la galerie et j'ai commencé des esquisses pour servir à l'exécution des fresques. 25 mai. Ce matin, Gaston est venu me réveiller pour me proposer une promenade sur la rivière en gondole. En gondole. J'ai cru qu'il plaisantait. Mais non. En arrivant au bord de l'escalier des douves, j'ai vu en effet une gondole amarrée au bas des marches. Elle a été apportée de Venise l'année dernière par la capricieuse châtelaine. Lady Clarkson est arrivée dans un délicieux costume. Un véritable portrait de Velázquez. Une longue robe de d'Ojarès en peluche grenat et un bonnet à la Stuart, taillé dans la même étoffe et bordé de perles. Nous nous sommes embarqués, Gaston et moi, avec elle. Deux domestiques habillés en gondoliers vénitiens nous conduisaient à l'aide de longues gaffes qu'ils plongeaient dans l'eau peu profonde en cette saison. La proue de notre gondole, avec sa courbe gracieuse, fendait doucement la surface unie de la rivière, qui reflétait tout entière l'image renversée des tourelles et les mâts sombres du parc. Des cygnes nageaient autour de nous. Lady Clarkson leur jetait de petites pâtisseries qu'elle portait dans son aumônière, et ils se pressaient sur le bordage allongeant leur long col blanc par les ouvertures. Nous avons abordé, un instant, une petite île, et Gaston nous a quittés là pour pêcher, a-t-il dit. je suis resté seul avec Lady Clarkson. Elle m'a entretenu de mes études, de mes travaux et de mon vieux maître. Je lui ai parlé de ses peintures à la cire, qu'il réussit avec tant de bonheur, et la châtelaine m'a exprimé le désir de le voir au plus tôt pour lui commander un tableau destiné à la chapelle. J'étais bien heureux de cela, car il n'est pas riche, mon vieux Job. En tournant son bracelet pour me faire admirer une miniature qui est suspendue, le fermoir s'en est ouvert et Lady Clarkson m'a prié de le rattacher. Quand j'ai senti sous mes mains son bras blanc sortant de la manche ouverte, j'étais si troublé que je ne pouvais ajuster le fermoir. Elle m'a demandé si je souffrais, si je ne sentais pas un peu de fièvre, et elle a posé la main sur mon front. Il m'a semblé que tout mon sang affluait à mon cœur, et j'ai répondu, d'une voix mal assurée, que je me sentais un peu fatigué en effet. Nous n'avons pas causé jusqu'au retour, et il m'a fallu faire appel à toutes mes forces pour lui offrir la main et l'aider à descendre. 29 mai. C'est décidé, nous partons demain, Gaston et moi, pour le midi où il va se marier. Il n'a pas encore vu celle qui sera sa femme. C'est étrange. Jamais je ne me marierai ainsi, même sur la foi de Monseigneur.